Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Marie-Christine de Vels. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui dans le studio Anne Boussico-Ménéra. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'éloge du doute à partir de l'histoire de Thomas dans l'évangile de Jean.
Qui d'entre nous n'a jamais douté? Le doute n'est-il pas le compagnon obligé de toute foi? Et voici donc l'histoire de Thomas, le plus célèbre des douteurs.
Donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Jésus a opéré sous les yeux de ce disciple bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom.
En ce qui me concerne, je me sens très interpellée, comme on dit aujourd'hui, par ce Thomas qui doute, très proche de lui. Je dirais même que c'était en quelque sorte mon métier de douter. En tant que biologiste, j'ai appris à mes élèves que seul l'esprit critique et la remise en question permanente des théories explicatives des faits et des interprétations qui ont cours pour le moment et à titre provisoire, bref, seul ce qu'on appelle le doute scientifique peut permettre d'avancer dans la recherche de la vérité. Bien sûr, ce n'est pas exactement de ce doute-là qu'il s'agit aujourd'hui, bien qu'il s'en rapproche, mais plutôt de crise de foi. Certes, on pourrait aussi, à partir de la première partie du texte de ce jour, mener une réflexion de type théologique, disons, sur notre mission d'envoyé et sur la remise ou la non-remise des péchés. Mais je vais tenter, en somme, un éloge du doute. Très proche, donc, ce Thomas. Et pourtant, qu'on a tendance souvent à juger avec mépris ceux qui doutent, surtout lorsqu'il est question de foi. Que c'est contraire à la bien-pensance convenue de ne pas arriver à écarter les questions critiques, de connaître les obscurités et les insécurités du cœur, celles qui font plonger dans des moments de silence et de mise en question, qui obligent toujours à nouveau à chercher. Et pourtant, Thomas, le disciple qui doute, a bien sa place dans les récits liés à Pâques. Le disciple Thomas porte un surnom qui en araméen veut dire « jumeau ». Et pourtant, à notre connaissance, Thomas n'avait ni frère ni sœur du même âge. Autrement dit, il faut comprendre cette appellation sur un plan différent, dans un sens métaphorique ou symbolique. Ce surnom qualifiait Thomas apparemment de personnage double, comme si deux âmes, deux orientations différentes guidaient sa vie. Elles sont diamétralement opposées et pourtant elles ont toutes les deux leur place dans cette vie. On peut aussi dire qu'il est en outre comme notre jumeau. Je veux croire, je me suis lancé dans une existence fondée sur la foi. Je veux être un disciple de Jésus. Je me suis engagé à fond dans l'Église du Christ. Et pourtant, il y a des moments sombres et difficiles dans ma vie qui pèsent sur mon cœur et qui mettent tout en question, où toutes les certitudes s'écroulent, où les convictions les plus profondes commencent à chanceler. Ces instants pendant lesquels il m'arrive de me trouver en face de cette question préoccupante, à savoir si j'ai vraiment eu raison de m'engager dans cette direction et si cette vie dans le sillage du Christ vaut vraiment la peine d'être vécue et poursuivie. Le doute, ce n'est pas seulement une mise en cause de nos efforts et de notre mode de vie à court terme, c'est une mise en question existentielle. Ce sont des questions qui vont bien plus loin. Ce sont des interrogations qui minent plus profondément notre personnalité pour remettre en question nos engagements, nos prises de position, nos orientations de vie. Le doute parvient à tout ébranler, il arrive à troubler tout notre esprit. Très souvent d'ailleurs, le doute pose la question combien compréhensible du « pourquoi ». Pourquoi, par exemple, cette maladie qui atteint des êtres qui nous sont chers? Pourquoi cet avenir incertain pour tant de nos jeunes qui ne savent pas comment faire pour trouver du travail, pour accéder à une place valable dans la société qui nous entoure? Pourquoi ces guerres qui imposent tant de souffrances à tant d'hommes de par le monde? Et pourquoi les autres, les pilleurs impitoyables du bien de leurs ennemis et les marchands d'armes, s'enrichissent-ils sans arrêt, sans aucune pudeur? Pourquoi? 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 Le doute et le scepticisme de Thomas posent la question du pourquoi, mais aussi la question du à quoi bon. À quoi bon s'engager? Que faire avec nos moyens si faibles, avec les moyens du bord, les outils à notre portée si peu efficaces? À quoi bon notre petit coup de main en face de la souffrance écrasante de tant d'hommes et de femmes innocents? Nous aussi, nous sommes de semblables jumeaux, de tels personnages doubles qui d'un côté accueillent à cœur ouvert le message de l'amour paternel de notre Dieu créateur, et qui de l'autre connaissent aussi et en même temps le doute paralysant, ce sentiment d'être impuissant, d'être démuni, l'impression de se trouver du mauvais côté, d'être dépourvu de toute orientation valable. Nous voici envahis par un vertige qui met en question toute confiance, toute foi, tout engagement au nom de l'amour. Il est important toutefois de retenir que Thomas, celui qui doute, se trouve bien au cœur du message pascal, puisqu'il fait partie des témoins de la résurrection. Nous n'avons plus besoin d'avoir honte de nos questions ni de nos doutes. Nous, personnages doubles, nous aussi incertains que nous soyons, nous voici représentés par Thomas, au cœur même des rencontres avec le ressuscité. Par cette expérience nouvelle, il n'est plus nécessaire de cacher nos doutes. Nous ne sommes plus obligés de camoufler nos questions, de dissimuler notre insécurité derrière un masque souriant ou pieux. Il ne faut plus faire comme si. Il est inutile de faire disparaître nos incertitudes derrière une façade impeccable qui, au fond, ne cache que des ruines. Nous sommes appelés à entendre et à méditer le récit de Pâques très attentivement afin de nous retrouver dans ce récit, pour nous découvrir nous-mêmes dans cette histoire qui traite de notre propre foi et de nos propres doutes. Thomas n'a pas été présent au moment où Jésus s'est montré à ses disciples. C'était un moment de culte d'ailleurs. Le récit parle d'une réunion au premier jour de la semaine. Les disciples s'étaient donc réunis le dimanche. Mais pour mettre les choses au clair, Thomas avait séché le culte. Il avait un empêchement, comme il nous arrive d'en avoir. Ou peut-être plutôt qu'au lieu de seulement s'enfermer par peur, il avait fui loin de Jérusalem. C'est ainsi qu'il rate cette expérience joyeuse de la découverte que leur Seigneur est ressuscité, et du même coup, il rate l'affermissement de la foi que les autres disciples ont pu partager. Il n'a pas eu l'occasion de partager le moment bouleversant de la rencontre avec le ressuscité. Il ne sait donc pas encore que le désarroi, la peur, la détresse du Vendredi Saint n'ont pas eu le dernier mot. Thomas n'était pas là, et c'est ainsi qu'il ne comprend pas comment ses frères et amis ont pu trouver la paix malgré la peur, comment ils ont pu accéder à cette certitude que la peur et la mort sont vaincues, comment ils ont pu surmonter le deuil et la souffrance, les incertitudes et le doute. Il ne rencontre que des mots. Les autres lui assènent des certitudes toutes faites. Peut-être rencontre-t-il par-dessus tout le rejet, le mépris des autres qui ne comprennent pas ses doutes. Thomas est appelé à faire confiance à des mots. C'est difficile, vous le savez. C'est presque impossible. J'ajoute, il faut même se méfier des mots, et même des mots de la prédication. Les mots ne peuvent pas tout faire. Les mots, à eux seuls, ne peuvent surtout pas susciter la foi. Regardez autour de vous, regardez dans votre propre cœur et vous verrez. La prédication ne suscite pas la foi. Ce qui fonde, ce qui suscite la foi, ce n'est jamais un mot. C'est toujours un acte, une expérience. Une rencontre peut-être, un amour vécu, une expérience partagée. Voilà ce qui peut bouleverser une vie, voilà ce qui peut nous orienter vers la foi. Ce qu'il nous faut donc absolument, c'est la rencontre avec le Christ ressuscité. La foi résulte d'une rencontre personnelle, pas des on-dit. Douter, c'est se poser des questions. Le doute donne du temps, le temps de la réflexion, qui empêche la superstition, l'adhésion à des croyances toutes faites, faites par d'autres. Les certitudes figées, l'impression de détenir définitivement la vérité mènent au sectarisme. Celui qui doute ne se contente pas de suivre, mais finit par parvenir à un choix personnel. Petit rappel, hérétique veut dire celui qui choisit. Il finit par parvenir à une foi adulte, et j'ai enfin compris ce verset d'un cantique qui me paraissait si saugrenu et m'a tant fait rire quand je le chantais, même si nous en avons maintenant une autre traduction plus moderne. On chantait « Que je mette sur ma route la foi virile où j'y le doute », et moi comme femme, ça me faisait rire. Et voilà pourquoi Thomas a raison avec son doute. Il demande de plein droit de pouvoir croire avec tous ses sens. Vous avez bien retenu que le Christ ressuscité ne lui refuse pas cette expérience très concrète. Thomas a bien le droit, le privilège de toucher l'incroyable. Thomas, avec toute son incertitude, va être témoin au sens le plus profond du mot. Il va faire l'expérience concrète que ce même Jésus qui est passé à travers les souffrances et les obscurités les plus atroces, que ce même Jésus qui a été déshonoré, torturé, bafoué, que ce Jésus est pourtant le vivant. Thomas va faire l'expérience concrète que le ressuscité a précédé tous ceux et toutes celles qui souffrent à travers les enfers les plus cruels pour sortir vainqueur de la douleur et de la souffrance. Voilà la raison pour laquelle Thomas s'écrit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà la raison de cette confession de foi. Bien sûr, vous me direz que le texte nous présente, après cette confession de foi, une remarque critique de Jésus. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » En effet, on dirait bien une remarque critique qui semble remettre en question la valeur de cette confession de foi. Mais ce serait une explication trop facile. Les disciples, ceux qui étaient présents le soir de Pâques, n'avaient-ils pas eux aussi cru parce qu'ils avaient vu? On pourrait donc aussi poser la question de savoir pourquoi Thomas, celui qui doute, devrait être prêt à croire sans cette rencontre personnelle avec le ressuscité. Je suis persuadé que ce récit veut nous dire tout le contraire. Jésus ne critique pas Thomas. Par contre, il montre comment Thomas est parvenu à cette confession de foi. Il retrace le chemin de cette rencontre par laquelle Thomas a trouvé la foi. Même s'il poursuit par la béatitude de ceux qui ne voient pas et qui croient pourtant, s'agirait-il de nous, par exemple? Ce récit de Thomas et de son doute reflète certainement un savoir partagé à l'époque par tous les chrétiens. Selon une tradition très ancienne, Thomas faisait partie des premiers martyrs pour la foi. Thomas, toute sa vie de disciple durant, a probablement été un esprit réfléchi. Il savait reconnaître ses incertitudes, il ne dissimulait pas ses doutes. Il pouvait lui arriver de faire des remarques assez irrévérencieuses et ironiques, en tout cas critiques. Par exemple, au chapitre 11, verset 16, « Suivons-le nous aussi pour mourir avec lui, alors qu'il n'avait certainement pas du tout l'intention de mourir. » Ou au chapitre 14, verset 5, « Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous te suivre ?» Peut-être même a-t-il été un frère à qui il arrivait assez souvent de casser la tête à ses compagnons de route avec ses questions, ses doutes, avec des contestations qui risquaient parfois de paralyser tout le monde. Mais lorsqu'il a fallu prouver par un engagement concret son amour pour le Seigneur, Thomas a tenu ferme. Lorsqu'il a fallu lancer sa propre existence dans la brèche, Thomas l'a fait. Thomas a touché très concrètement les plaies de Jésus. Il n'a pas retiré la main pour la garder propre. Et nous sommes appelés à en faire autant. C'est ainsi que Thomas devient un modèle pour nous. Il nous montre que les questions critiques, ces questions que nous refoulons si souvent dans le coin le plus noir de notre cœur, ont leur droit. Douter ne fait pas de nous des non-disciples. Thomas, malgré elle, est disciple. Il fait partie des 12. Au verset 19, on dit « les disciples », alors même qu'il en manquait en fait un. Il n'était pas là et il a quand même sa place parmi eux, même s'il n'a pas encore rencontré le ressuscité et qu'il doute. J'ai parlé tout à l'heure de foi adulte. On pourrait dire aussi une foi plus sûre, même s'il m'arrivera encore bien des fois de douter, c'est certain. Une foi plus mûre, plus ferme, parce que passée par l'épreuve du doute, elle en ressort mieux trempée, un peu comme une lame qui ressort plus acérée d'être passée par l'épreuve du feu. Cependant, le doute est stérile s'il ne débouche sur rien. Également donc, une foi plus efficace. Les engagements concrets sont la seule façon de relever le défi du doute. Nous nous demanderons en vain où se cache Dieu quand, par exemple, on voit des gens souffrir, tant que nous n'aurons pas compris que c'est nous qui sommes appelés à réagir en son nom, donc à faire tout le possible très concrètement. Il n'est pas très utile de se poser les grandes questions de la foi tant qu'on n'est pas prêt à vivre très simplement l'amour là où on se trouve. Il ne sert à rien de se lancer dans des discours philosophiques ou théologiques tant que nous n'avons pas compris que nous sommes appelés à vivre en toute humilité, très concrètement, ce que le Christ nous demande. Au lieu de nous plonger dans les réflexions spirituelles, il importe de mettre les mains à la pâte, même au risque de les salir. Nous sommes appelés à faire presque comme si Dieu n'existait pas, comme si c'était nous et nous seuls qui étions obligés de faire le nécessaire à la place de Dieu. Être envoyé, voir la première partie du texte, c'est aussi être non pas en deçà de la résurrection pour la vérifier, chacun d'entre nous tour à tour, mais au-delà pour en témoigner, même au risque d'engager notre vie, comme Thomas, celui qui a douté et qui a fini martyr. Témoigner avec une foi qui ne sera jamais tiède, parce que l'événement de Pâques s'avère plus fort que le doute et la mort, avec une foi libre. Je suis libre de croire, parce que libre de douter. Amen.
Merci Anne. Et pour terminer cette émission, je vous propose une prière. De Jean-Marie de Bourquenay. Je crois en Dieu créateur. Je ne crois pas qu'il ait créé le mal. Il recherche la voie de la paix. Il trace une route pour notre monde. Il éclaire le chemin de l'humanité. Il donne un sens à ma vie. Je crois en Dieu révélé par le Christ. Je ne crois pas en un Dieu qui nous culpabilise de notre péché. Je crois au travers des rencontres de Jésus en un Dieu qui accueille les situations. Je crois au Dieu de la nouvelle chance. Je crois en Dieu qui est esprit et qui éclaire nos intelligences. Je ne crois pas au Dieu des certitudes étriquées et des dogmes imposés qui mettraient en berne la raison humaine. Je crois au Dieu du mouvement et du renouvellement. Je crois au Dieu vivant de la créativité. Je crois que Dieu donne à chacune et à chacun d'entre nous la mission de construire un monde plus beau, plus juste, plus fraternel et plus vivant. Amen. Merci Anne pour cet éloge du doute avec l'histoire de Thomas. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matin au temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Thank you. Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et nous vous donnons la parole sur notre page Facebook. Réagissez, commentez, faites-nous part de vos coups de gueule ou de vos coups de cœur et surtout, restez connectés à l'actualité de votre radio préférée.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Ensemble, c'est l'émission qui donne la parole aux associations de votre département. Retrouvez chaque semaine les acteurs de la vie associative eurélienne pour évoquer l'histoire et l'actualité de leur structure. Découvrez leur engagement au service des autres. Ensemble, c'est le lundi à 11h30, le jeudi à 19h et le vendredi à 8h sur RGC et sur radiograndciel.fr. Got your flashing warning in your face, but it's been so long, girl, since you could keep the pace. I see your infidelities are.